Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. La police ne vient pas voir Nicolas. Le dossier a été classé. Nicolas se demande si ça vaut la peine de vivre dans un monde comme celui-là où les hommes peuvent devenir des canailles et des bourreaux. Le temps passe. Il veut faire des films, écrit des scénarios, cherche un producteur, n'en trouve pas, parce qu'il écrit des sujets trop durs. Alors il essaye de se produire lui-même. Cherche de l'argent, fait des calculs, il trouve un peu d'argent, puis va à la recherche des comédiens, de lieux. Lorsqu'il a l'un, il n'a pas l'autre. Il écrit beaucoup, car à chaque fois qu'un comédien veut jouer avec lui, il lui écrit une histoire, ce qui fait qu'il écrit de nombreux scénarios qui ne servent à rien, car, pas d'argent, il ne peut tourner. Sa sœur l'aide à trouver des comédiens, mais dès qu'ils savent que c'est pour tourner pour presque rien, ils se désistent. Une ou deux fois, le hasard veut qu'il rencontre un comédien et qu'il et des lieux et qui puissent tourner quelques petites choses qui sont plutôt des essais qu'autre chose. Mais ces vrais projets s'entassent. Il devient aigri. Il n'a pas le moral, pense souvent à la mort ou veut partir. Il dit un soir que sa sœur est dans sa chambre. J'aimerais mourir. mais je n'ose pas seul partir pour le grand inconnu. Voyager, mais je n'ai pas d'argent. Alors, il faut que je cherche des gens influents pour pouvoir faire des films. Il continue à écrire et à aller à des soirées.
Qu'est-ce qu'elle a ?
Je ne sais pas. Certains disent qu'elle est arriérée mentale et d'autres qu'elle cible. Elle est souvent...
Un soir, à une de ces soirées, que fait sa mère, Nicolas remarque un homme de taille moyenne, dans les 25 ans, cheveux châtains frisés, lunettes métalliques, habillé d'un costume gris, d'un col roulé blanc. Nicolas se demande ce qui peut bien être cette chose. Il s'approche de lui. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de monde, hein ? Nicolas fait. Oui. L'autre continue. Il y a du fric. Et dire que personne ne pourrait m'en donner pour faire mon film. Nicolas est surpris et lui dit : vous aussi voulez faire un film ? Je suis Nicolas Scrap. Moi, c'est Jean-Luc Darlard. Alors, vous voulez vous aussi faire des films ? Oui. Jean-Luc lui demande : des films comme tout le monde ? Non, pourquoi ? Vous voulez faire du cinéma bourgeois ? Mais pas du tout. D'ailleurs, je n'arrive pas à trouver un producteur parce que mes sujets sont trop sombres. Jean-Luc est surpris et lui dit, il va falloir qu'on parle de ça, qu'on se voie dans un endroit plus tranquille. Chez moi, par exemple. D'accord. Nicolas est surpris et heureux d'avoir trouvé une personne avec qui il peut parler cinéma. Le pauvre. Jean-Luc lui donne son adresse et il se donne rendez-vous pour le lendemain après-midi.
Tout le monde boit du café. Seulement, il faut faire venir les plans d'Afrique. C'est ça qui coûte le plus cher, le transport.
Eh ben moi, je parie pour la banane. Il n'y a pas que l'Europe, il y a les États-Unis.
Nicolas, le lendemain, va à son rendez-vous. Jean-Luc habite rue du Saint-Jean-Blandan, dans le premier arrondissement, au numéro 24. Un vieil immeuble restauré. Avec au rez-de-chaussée une petite radio, Anard Jeune, Radio Canut. Il est entré dans l'allée étroite et sombre. Il regarde sur les boîtes aux lettres à quel étage il habite. C'est au deuxième étage. Escalier de pierre, étroit, usé. Deuxième étage, porte droite. Jean-Luc, avec l'air d'une personne mal réveillée. Nicolas se dit qu'il ne doit plus se rappeler qu'il avait invité. Bonjour, je suis Nicolas. Ah oui, entre. Nicolas entre. Petit couloir sombre qui mène à une pièce où se trouve la pièce principale, une grande pièce carrée, avec, contre les murs, des étagères pleines de livres, deux fauteuils en cuir marron, une petite table, et dans un coin de la pièce, un lit à une place défaite. Jean-Luc lui montre un fauteuil, Nicolas va s'asseoir. Et Jean-Luc va s'asseoir à côté, fauteuil à côté. Jean-Luc lui dit, « Excuse-moi, mais j'ai passé toute la nuit à lire Pascal. » Puis il se présente mieux. Il est le fils d'un banquier qui habite Monte-Carlo. J'ai toujours détesté la bourgeoisie, le fric. Il veut faire un cinéma de militant, avec un minimum de technique, un scénario simple pour improviser, des sujets chocs. Il faut tuer le cinéma de papa. Nicolas lui dit, « Je défends la même chose. » Ils sympathisent, se voient souvent. Jean-Luc a fourché une caméra 8 mm et de la pellicule. Tous les deux, avec d'autres amis de Jean-Luc, font des essais de films. Ce n'est pas très convaincant, mais cela fait très amateur brouillon. Jean-Luc entre à la revue et comme Nicolas écrit des articles très violents contre le cinéma de papa, comme Nicolas qui lui devient de plus en plus virulent. Ils disent que les films doivent coûter moins cher. Ils critiquent méchamment les metteurs en scène, les studios. Il n'y a que les films américains qui sont bons, même s'ils sont faits en studio. Tous les deux font une grammaire pour faire les films. Un film n'est bon que fait comme ça. Équipe technique minimum, caméra petite. Micro, son direct, pas de studio, pas de musique de film, pas d'histoire. Le public ne doit rien ressentir, pas de sensation, d'action. Ça fait cinéma bourgeois, être comme dans la vie. Que l'on voie, que l'on soit dans un film, que l'on voit un film. Les acteurs doivent être jeunes et naturels, pas de mouvement de caméra. Si le son ou l'image n'est pas très bonne, cela ne fait rien, c'est du cinéma. Être de gauche, faire une critique contre le système, la morale, être même anard, intello de gauche, droite égale SS, CRS égale SS, pas de sentiment, l'union libre, etc., etc. Faire des films sans narration mais qui militent, faire jouer des actions naturellement faux. Improviser, caméra sur l'épaule, etc., etc. Malgré toutes ses activités, Nicolas reste toujours mélancolique. Il a peur de l'avenir, de perdre son temps. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il se dit qu'il pourrait faire autre chose. Il est incapable de prendre pleinement du plaisir. Et en plus, il aimerait être aimé pour de vrai. Mais quelque chose l'empêche d'aller au fond avec les femmes. Il sent une gêne avec elles et il les aime mieux habillés que déshabillés. D'ailleurs, il est toujours déçu lorsqu'il les voit nues. Il a l'impression qu'elles sont toutes pareilles et qu'avant de les voir, il s'imagine qu'il va voir quelque chose de différent et c'est toujours la même chose. De temps en temps, il fume de la drogue, mais fait attention de ne pas aller trop loin, juste pour se détendre un peu. Il fume seul dans sa chambre en se masturbant dans son lit. se sent bien et a de l'affection pour les hommes, mieux que pour les femmes. Il lui arrive même d'être troublé par leur beauté. Mais la plupart du temps, il préfère les hommes parce qu'il se dit qu'il peut parler plus librement avec eux, qu'ils sont plus simples. Il a toujours ce désir de mort qui remonte du fond de lui-même. Surtout lorsqu'il se sent abandonné, incapable de faire quoi que ce soit. Car il a toujours peur de commencer une chose et d'être incapable de la finir. C'est un grand tourmenté qui cache ses troubles par la brusquerie et la virulence. Le temps passe. Il s'aperçoit qu'avec Jean-Luc, ça ne pourrait pas aller bien loin avec ses idées gauchardes et qu'il ne pense plus politique que cinéma. Lui, Nicolas, ne pense que cinéma. Il sait qu'un jour ou l'autre, leurs chemins vont se séparer. S'il veut faire du cinéma, il doit trouver quelqu'un d'autre. Soirée où il a été invité par une amie de sa sœur dans une villa dans les monts du Lyonnais, grande maison au fond d'une cour. La soirée se passe dans le parc, orchestre, buffet, etc. et tout. Beaucoup de monde. Pendant que sa sœur danse, l'hôtesse, une jeune femme de 25 ans, cheveux blonds, robe du soir rouge, très belle, vient vers lui avec une jeune fille grande, mince, blonde, cheveux mi-longs, habillée d'une robe bleue pâle. L'hôtesse lui dit
« Lucas,
Nicolas, je crois que vous vous occupez de cinéma. » Nicolas lui répond « Un peu, oui, j'écris des articles et cherche à en faire. Eh bien, cela tombe bien. Je vous présente Martine Truffe. Son père est producteur de films. Mademoiselle, Martine lui dit, elle n'aurait pas dû vous dire que mon père est producteur. Je ne suis que sa fille. Et moi, j'étudie l'art plastique. Nicolas la trouve charmante et lui dit, moi non plus, je ne suis pas metteur en scène. Et je n'ai rien fait pour le cinéma. Je rêve d'en faire, c'est tout. Je vais vous faire danser? Oui, je veux bien. Et il l'amène danser. Ils passent toute la soirée ensemble. Il lui raconte des histoires, sa vie en Amérique, en enlevant le côté ambigu de la chose. Elle est emballée par lui. Lui pense surtout qu'elle est la fille d'un producteur. Et qu'un film vaut bien un mariage. Et puis il aurait pu tomber plus mal sur une femme laide ou vieille, ou les deux à la fois. Après la soirée, il la raccompagne, car il a son permis de conduire. Il a acheté une petite voiture. Ses parents habitent Charbonnières, une maison au fond d'un parc, vieille maison familiale, de 3 étages, style Napoléon III. Avant qu'il ne la quitte, il lui dit « Si vous voulez, je peux vous apporter le livre que j'ai fait éditer. Oui, je veux bien. Venez demain à 17h. Je préviendrai mes parents. » Et elle le quitte. il est heureux, car il se dit qu'il va pouvoir faire connaissance avec la famille. Le lendemain, il sonne au portail de la famille. La porte du portail s'est ouverte. Un domestique grand, maigre. Monsieur, je suis Nicolas Kraff. Mademoiselle Martine m'attend. Bien, monsieur. Veuillez me suivre. Nicolas suit le domestique. Qui le mène à la maison. Il le fait entrer par une porte qui se trouve sur le perron. Entrez, monsieur. Domestique. Entrez, monsieur. Il est entré dans le salon Louis XV. Je vais prévenir mademoiselle. Et le domestique le quitte. Nicolas attend debout au milieu de la pièce. La porte s'ouvre. C'est la jeune fille. Elle s'approche vers de lui. Bonjour. Bonjour. Tenez, je vous ai apporté le livre. Elle le prend. Merci. Gardez bien la regarde bien la couverture et lui dit. Il doit être drôlement bien de voir son nom sur une couverture. Oui, ça fait plaisir. La porte s'ouvre. Un gros et grand homme, à barbe et cheveux noirs, habillé d'un costume gris, demande « Qu'est-ce qui fait plaisir ?» Martine dit à Nicolas « Voici mon père, jeune homme. »« Monsieur, je suis Nicolas Kraff. » Martine dit à son père en lui montrant le livre « Nicolas a écrit ce livre. »« C'est bien, jeune homme. » »« Ce n'est qu'un premier roman, mais j'ai écrit aussi un scénario pour le cinéma. Ah, oui, mais malheureusement, ça n'a pas marché parce que l'acteur qui devait jouer est mort. Ah oui, ça arrive. Bon, eh bien, je vous laisse. Et le père les quitte. Martine demande, vous voulez prendre le thé? Cela vous permettra de parler de votre livre? Oui, je veux bien, merci. Et elle sonne pour faire servir le thé. Tout en prenant le thé, il lui résume le livre et le scandale qu'il a fait. Votre père ne sera pas choqué que vous le lisiez. Surtout pas. Vous savez, avec tous les ce qu'il lit comme scénario, il est vacciné. Une heure plus tard, ils se quittent bons amis. Sur le chemin de retour, Nicolas se dit que ça s'est plutôt bien passé, que le père est une personne très sympathique. Ils se voient plusieurs fois. La jeune fille est très emballée par lui. Elle le trouve beau, intelligent. Son livre lui a beaucoup plu. Elle l'a fait lire à son père, qui l'a trouvé pas mal. À chaque fois qu'il voit la jeune fille, il lui parle de cinéma, de films qu'il aimerait faire. Son enthousiasme le fait partager à la jeune fille et petit à petit, ses projets deviennent les siens. Ils se voient surtout à des cafés près des universités du Quai de Rhône, vont au cinéma. À part des poignées de main prolongées et des baisers pour se dire bonjour, il n'y a rien eu d'autre. Elle, cela lui suffit, lui pense à autre chose. Nicolas se dit que s'il se mariait avec la jeune fille, ça l'arrangerait pour ses projets et en plus ses parents seraient satisfaits car la famille est bien. Un soir, qu'ils sont au restaurant, Martine lui dit « Je vais parler à père pour qu'il t'aide à faire un film. » Nicolas est surpris et heureux. « Merci, mais je ne saurai pas si je serai à la hauteur. » Martine lui dit « Ne t'en fais pas, tu seras très bien secondé. Père a l'habitude. Et puis, tu sais, tu ne seras pas la première ni la dernière personne qui ne connaît rien au métier et qui se dit metteur en scène. Nicolas est inquiet. Il se rend compte que faire du cinéma, c'est un métier, qu'il faut connaître la technique et aussi diriger l'acteur avec la responsabilité de faire un film. C'est lourd. Vous avez des gens, toute une équipe, plus ou moins grande, et du matériel sous votre responsabilité. Sans compter le budget, le producteur sur le bras, les banques, la censure, la critique, les collègues que vous avez éreintés dans vos critiques, et toutes les personnes qui croient en vous, vous qui trônez un nouveau cinéma, qui attaquez les pros, vous allez être jugé comme vous avez jugé les autres. Non! Il vaut mieux rester critique, c'est tout. Il n'y connaît rien au cinéma, car il s'aperçoit que lui qui critique les cinéastes ne connaît rien au cinéma. Il se dit qu'un critique de film ne doit jamais faire de film, C'est trop dur et compliqué. La critique, c'est plus simple. Pour ne pas se tromper, on dénigre ce qu'a fait le pauvre cinéaste. Et comme cela, on ne risque pas de se tromper et d'avoir fait de la promo d'un film ou de la pub. Non, non, c'est trop difficile. Après avoir réfléchi à tout ça, lorsqu'il revoit Martine, le lendemain, il lui dit, après l'avoir embrassée devant l'université, « Je crois qu'il vaudrait mieux que tu ne parles pas à ton père de mes projets. » Et il est surpris et lui dit « Mais pourquoi ?»« Parce que je ne me sens pas prêt à faire un film. » Elle l'embrasse sur la joue et lui dit « Ne t'en fais pas, tu ne seras pas seul et puis père est gentil. » Le lendemain, elle va frapper à la porte du bureau de son père.
Entrez. Elle entre. Il t'assied à son bureau. Tu as quelque chose à me dire ? Oui, père. Elle va s'asseoir en face de lui.
Je t'écoute. Voilà, père, Nicolas a un projet de film et j'aimerais c'est que tu puisses l'aider.
Tout d'abord, j'aimerais savoir qui il est.
Je l'aime beaucoup et il est sérieux, intelligent et issu d'une famille très bien.
Tu veux te marier avec lui ?
Oui.
Est-il... s'est-il déclaré ?
Non, père. Tant qu'il n'aura pas de situation, il ne le fera pas.
Mais il a un penchant pour toi et toi pour lui.
Oui, père.
Que font ses parents ?
Le père a une entreprise de maroquinerie.
Il fait la grimace. Tu dois être un petit atelier.
Non, une usine de plus de 1000 employés.
La maroquinerie, c'est une profession de juif.
Pas lui.
Donc, il a des biens. Et pourquoi ne va-t-il pas à l'IDEC, l'école du cinéma ?
Parce que son père ne trouve pas ce métier très sérieux.
Bon, bon, bon. Tu diras à ton ami de venir me voir ici demain soir.
Bien, père. Le lendemain, elle prévient Nicolas qu'il n'est pas chaud. Mais se dit qu'il ne peut plus reculer. Il aura l'aide, l'air d'un imbécile. Le soir, il se présente au bureau du père. Il se dit que de toute façon, il fallait bien y passer un jour ou l'autre. Le domestique l'accompagne.
Et le fait entrer dans le bureau. Le père se lève et s'approche de lui.
Bonjour Nicolas, venez vous asseoir, ne craignez rien.
Il le fait asseoir en face de son bureau. Et lui s'assoit à son bureau.
Le père est un brave homme et sait que le jeune homme est intimidé. Il veut l'aider parce qu'il aime bien la jeunesse et que ce jeune semble gentil, quoique ses écrits.
Alors, je vous écoute.
Il voit qu'il ne peut pas et qu'il ne sait quoi dire.
Ma fille m'a dit que vous aviez un projet de film. Je suis prêt à vous aider. Dites-moi ce que vous voulez faire.
C'est-à-dire que j'ai plusieurs scénarios et je n'ai pas encore choisi celui que j'aimerais tourner.
Écoutez, c'est la première fois que vous allez tourner. Vous allez commencer par faire un court-métrage, une histoire toute simple, sans complications de mise en scène. N'ayez pas peur, vous serez bien secondé par des gens sérieux et gentils, de bons pros, et nous ferons aucune publicité sur le tournage pour que vous puissiez être tranquille. J'ai lu vos articles, j'ai été surpris par leur virulence. Mais je connais la jeunesse, elle est vive.
Nicolas est tout rouge.
Vous me porterez un scénario et nous discuterons pour le travailler. D'accord ?
Oui, monsieur.
Bien, nous avons fini. Nous vous gardons à dîner. Ne dites pas non, ma fille en serait attristée.
Le lendemain, Nicolas, dans sa chambre, passe en revue ses scénarios. Aucun ne lui plaise. Mal écrit, trop long, trop difficile, trop cher. Rien, rien n'est bon. Je veux faire un film et je suis incapable de faire un scénario. C'est nul tout ça. Non, non, j'arrête tout. Et il met ses cahiers dans le tiroir de son bureau. Je leur dirai que je ne peux pas.
Et il sort de chez lui.
Et tout en marchant, il se dit, si je ne le fais pas, on va me prendre pour un lâche. Les critiques, les cinéastes vont l'apprendre. Je vais être la risée de la profession. Dire que je critique les autres, mais que je suis incapable d'en faire autant. Et puis Martine va être drôlement déçue, son père aussi, qui est un brave homme, et ma famille. Mon père va me couper les vivres. Je ne peux pas faire autrement que de faire ce satané film. Je me suis mis dans un drôle de pétrin. Quelle idée ai-je eue de vouloir faire un film? J'avais un travail bien pépère, dire du mal des autres qui en font, et ça, sans connaître la technique ni comment se fait un film, je suis bien puni. Je suis sûr que ça va être très difficile. Et puis, les techniciens, les comédiens vont m'avoir à l'œil. Ils vont vite voir que je n'y connais rien. J'ai même pas eu le temps de lire un livre sur la technique du cinéma, genre, que sais-je, pour faire du cinéma en famille 8 mm. Et dire que je n'ai même pas fait de film amateur 8 mm. Rien. Le bon Dieu m'a puni, bien puni. Péché d'orgueil, péché critique, dénigrer de l'autre, de critiquer, de dénigrer les autres, de voir la paille de l'œil aux autres et pas son ignorance. J'ai critiqué le travail des autres, sans être capable d'en faire autant. J'ai péché, je dois payer. Donc me jeter à l'eau, et à la grâce de Dieu. Il est chez lui à son bureau, essaye de trouver un sujet de scénario pas trop difficile, avec peu d'acteurs, court, peu coûteux. Il ne faut pas ruiner le pauvre futur beau-papa, à moins que lorsqu'il va voir ce dont je suis capable, il ne veuille plus de moi, comme gendre, et Mathilde non plus comme mari. Ce serait bien fait pour moi, péché d'orgueil et de mauvaise langue. Si je sors de ce pétrin, je jure de ne plus dire de mal de qui que ce soit. Maintenant, il va falloir que je trouve un sujet de film. Puisque je n'ai rien fait de bon, je dois écrire un scénario. Bon, voyons. Prends une feuille de papier. Bon, voyons, voyons. Une histoire simple, avec peu d'acteurs et de décors. Il faut que ce soit quelque chose qui plaise aux jeunes, de contemporains. Voyons un peu. Une histoire d'amour. Non, il n'y a plus d'histoire d'amour à notre époque. Un film militant. Tout le monde s'endormira. Conflit de famille, père trop autoritaire, facho, ou Jean Couillon, con, ex-centitaire. Non. Il réfléchit, se dit. Ce qui préoccupe le plus ces jeunes, c'est leur indépendance. Comment vivre seul? Oui, 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 oui. Voilà un sujet. Un jeune homme quitte son père, prend son indépendance. Pour prendre son indépendance, le père vient lui donner sa part d'héritage de sa mère. Le père ne souhaite pas que son fils parte. Il a peur de vivre seul, mais le fils tient bon et le quitte. Malheureusement, peut-être parce qu'il ne sait pas comment faire ou aller, il décide de demander à un de ses amis de l'héberger. L'ami accepte. Le jeune lui montre l'héritage de sa mère, une grosse somme qu'il a eue en liquide. L'ami le lui vole. Il s'en aperçoit mais ne dit rien. L'ami lui demande pardon. Ils vivent ensemble, mais comme l'ami a du remords, se sent coupable, il se dit qu'il a une dette vis-à-vis du jeune. Un jour, le jeune lui dit qu'il est au chômage. Le jeune continue à habiter chez son ami, mais ne paye rien, même pas la bouffe, et en plus, il n'aide pas à la maison. Des jours passent. L'ami en a marre. Il se dit que ça a assez duré, et que ce n'est pas ce qu'il a volé qui doit l'héberger éternellement. Il est furieux contre lui-même. Quelle idée ai-je de lui voler? Maintenant, je suis obligé de l'héberger gratuitement, pendant des mois et des mois. Un jour, il en a vraiment assez, car il fait tout à la maison, ménage, repas, il va même jeter les ordures à la poubelle. Et puis, il travaille. Donc, il en a assez et décide de le rembourser pour qu'il s'en aille. Mais comme il n'a pas d'argent, il décide de voler sa mère. Il a les clés de chez elle. Un soir, il sait qu'elle est absente. Il entre dans son appartement et là, il prend dans son secrétaire de l'argent. Malheureusement, la mère revient. Il remet l'argent dans le tiroir avant qu'elle ne le voie. Elle est surprise et heureuse de le revoir. Cela faisait si longtemps. Elle croit qu'il est revenu parce qu'elle lui manquait. Il laisse dire. La quitte. Et lui dit qu'il reviendra. Il se dit, encore une mauvaise action qui s'est transformée en bonne action. Lorsqu'il revient chez lui, le jeune homme dit qu'il va le quitter, qu'il a trouvé du travail et le remercie pour l'avoir hébergé. Le jeune retourne chez son père qui est malade. 6 mois plus tard, les deux amis se retrouve par hasard. Le jeune a perdu son père et l'ami est marié. Ils sont loups, vont boire un verre ensemble. Voilà, l'histoire est finie. Nicolas présente au père qui la lit et l'accepte. Nicolas essaye de prendre des comédiens peu connus, de tourner chez des gens qu'il connaît. Il veut une équipe technique simple. On commence à tourner. Nicolas est gêné. Il a peur d'être jugé par les techniciens et il les laisse travailler en paix. Il leur dit ce qu'il veut et c'est tout. Les premiers plans ne sont pas très éloquents, convaincants. Ils ont été tournés chez les parents de Nicolas. Mais il persiste et à la fin, le film n'est pas trop mal. Il est présenté à la presse, il est bien accueilli, le public aussi. Aime le film. Pour fêter ça, on organise une grande fête dans le village des parents de Martine. Tout le monde est content. Maintenant que Nicolas peut faire un long métrage. Comme d'habitude, il ne trouve pas de scénario. Tout ce qu'il a écrit, ce n'est pas bon. Il est obligé d'en écrire un autre. Là, il choisit, pour faire plus simple, d'écrire l'histoire d'un adolescent à sa façon. Le scénario qu'il écrit, c'est l'histoire d'un jeune adolescent qui veut faire du cinéma. Il en rêve constamment. Malheureusement, sa famille l'étouffe. Il ne peut rien faire sans leur consentement. Dès l'âge de 14 ans, il est émis à l'usine. Il rêve d'indépendance, mais ne peut pas parce qu'il n'a pas d'argent. Mais un jour, n'en pouvant plus, il a décidé de partir pour Paris et voir. Il part en cachette le matin, fait semblant d'aller à l'usine. Avant de partir, il a volé de l'argent dans l'armoire de sa mère qui est dans sa chambre. Une fois arrivé à Paris, déception. Il s'attendait à une ville extraordinaire, et non, c'est une ville comme les autres. Il ne sait que faire ou aller. Il traîne dans les rues, mange des tablettes de chocolat, ne parle presque pas, car il est trop timide. Par hasard, sur un immeuble, il voit une plaque, CVRP Cinéma. Il prend son courage à deux mains et entre dans l'immeuble. Et monte au premier étage. Il y a des bureaux. Là, on lui demande ce qu'il veut. Il ne sait quoi répondre. Puis d'un coup, je veux faire du cinéma. On lui demande ce qu'il sait faire, qui il est, d'où il vient. Que de questions. Il y a la tête qui lui tourne. Surtout, qui sont plusieurs à le lui poser. Et puis, il n'a pas mangé. Il ne peut répondre. Aussi parce qu'il est trop timide. Enfermé sur lui-même. Il a l'impression qu'il va s'évanouir. Les gens qui l'entourent pensent qu'il est malade. Le trouvent bizarre. Il faudra appeler la police. Le jeune panique et leur dit: non, pas la peine. J'ai simplement envie de pisser. On le mène au WC. Puis, on le fait asseoir. Le jeune garçon a l'impression que c'est fini. On le tient. Il n'est plus libre. Il se dit que les dés sont joués. La police arrive. On lui dit
qu'on ne sait pas qui est ce jeune, qui semble perdu. La police s'approche de lui. Il se lève. On lui met les menottes. Le jeune leur dit, pas la peine, les menottes, je ne me sauverai pas. On le met dans une voiture de police. Puis, sous la pluie, triste, commissariat de quartier, on lui demande qui il est, fouille les poches, identité, fugue, oui monsieur. On le mène en prison en attendant le juge pour enfants. Chez le juge le regarde à peine et lui dit, puisque c'est la première fois, on va le rendre à ses parents. En attendant, il le met dans un foyer pour délinquants, dont dortoir, douche, où il aide une femme de service à laver de petits de 4 à 6 ans. Malgré lui, il se sent bien dans ce foyer. Il aimerait qu'on l'oublie, c'est-à-dire qu'il se retrouve l'ambiance de son âge. Il n'est pas à l'usine, ni chez des adultes. Malheureusement, une femme vient au foyer et lui dit qu'elle va le mener chez ses parents à Lyon. Il n'a pas du tout envie de retrouver ses parents, de reprendre la vie d'avant. Il aimerait mieux rester ici, avec les jeunes, au milieu des jeunes, en dehors de la vie, des adultes. Malheureusement, il ne peut pas dire qu'il refuse de retrouver ses parents. Ce serait la catastrophe. La justice penserait qu'il est maltraité et il y aurait enquête. Donc, il se laisse mener par cette femme. Une femme très quelconque, une accompagnatrice, habillée comme une concierge, avec un cabas et un parapluie de paysan. Le trajet se passe tristement dans un compartiment de train. Il pleut, c'est très triste, il ne parle pas, il aimerait que ce soit la fin du monde.
Tiens, j'ai trouvé ta légende. Nos modernes Pénélope.
Trop relevé pour le journal. Et surtout pour mon rédacteur en chef.
Lyon. Hélas déjà, tristesse aussi, direction commissariat. Là, on le fait attendre dans un couloir, des parents arrivent. Il se dit, surtout pas ma mère, j'aimerais être malade pour pouvoir lui parler. Il voit arriver son père, il se lève tremblant. Son père semble tout aussi ennuyé que lui.
Alors, tu nous as fait une de ces ennuis.
Bonjour papa.
Allez, viens, on rentre à la maison. Ta mère nous attend.
Le jeune bute, ou plutôt trempe des jambes. C'est nerveux. Son père le voit et lui demande, tu trembles ? Oui, c'est nerveux. Je crois que j'ai fait ça parce que je suis malade. Il sort du commissariat, Lyon, lui qui aurait aimé ne plus la revoir. Ils arrivent alors chez eux.
C'est la mère qui leur a ouvert.
Le jeune a honte. Il a toujours honte avec elle. Elle le reçoit froidement. Il retrouve l'appartement comme il l'avait quitté. Sa mère lui fait la tête.
Il va s'enfermer dans la salle d'eau pour se laver.
Il entend qu'elle dit « Il ne nous aime pas. Il ne nous a jamais aimés. »
il a les larmes aux yeux, devant l'armoire à glace, et se dit en pleurant, « Maman, je ne suis pas partie parce que je ne t'aime pas. Je n'oserai jamais te le dire. »
Il sort de la salle de bain.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 7e partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.